Bonjour à tous. Alors pour commencer, j'aimerais vous raconter une courte histoire. J'aime bien les petites histoires comme ça pour commencer. Alors elle concerne mes nièces, donc des jumelles, lorsqu'elles avaient environ 7 ans et demi. Alors le et demi est très important pour les enfants, hein, c'est pour ça que je le précise. Peu de temps avant Noël, je suis allé sur Amazon pour choisir un cadeau commun que j'allais leur offrir. Et j'ai donc passé commande et j'ai reçu ce jouet dans un énorme carton. Je ne m'y attendais pas du tout. Autant dire que j'avais un peu de mal à voir comment est-ce que je pouvais cacher ce gros carton avant Noël. Du coup, je l'ai gardé dans le coffre de ma voiture. Alors, je vous laisse imaginer une petite Clio à l'époque, avec un énorme carton dans le coffre. Ça rentrait à peine, en fait. Et le 24 décembre au soir, je suis allé prendre le cadeau dans mon coffre pour l'emballer. Et je l'ai mis au pied du sapin discrètement. Le matin de Noël, elles se sont réveillées, ont découvert les cadeaux, donc. Ceux que leurs parents leur ont offert et le mien. Arrive alors le moment d'ouvrir le gros carton. Alors, elles ont commencé par enlever le papier, puis je les ai aidées pour ouvrir le carton en lui-même. Vous connaissez les cartons Amazon qui sont scotchés avec du scotch armé. Pour des enfants, c'est un peu difficile, donc il fallait les aider. Elles ont ensuite sorti la boîte du jouet, qui était, donc pour ceux qui connaissent, une boîte de Playmobil centre commercial. Je ne sais pas si vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Alors l'image sur la boîte faisait un peu rêver, mais lorsqu'elles ont ouvert la boîte, elles en ont sorti des morceaux de plastique, tout simplement, et des dizaines de petites pièces. Donc en fait, c'est comme les meubles IKEA. Il faut tout monter soi-même. Du coup, j'ai pris le gros carton d'emballage, je l'ai mis de côté et je me suis accroupi par terre pour commencer à monter ce centre commercial en plastique. Et là, bah, j'avais un gros moment de solitude. Pourquoi? Parce que mes genoux et mon dos commençaient à me faire mal à force de rester accroupi. Et je ne voyais plus le bout de cet assemblage. Mais vous savez, ce qui m'a le plus sidéré dans l'histoire, c'est que mes nièces, en fait, elles ne s'intéressaient pas du tout aux jouets en question. Elles avaient pris le gros carton et ils ont fait une cabane avec. Elles jouaient avec le carton. Elles ont trouvé plus rigolo de jouer à la cabane avec le gros carton d'emballage que de voir un peu ce qui se faisait avec le Playmobil. Je me suis dit, si j'avais su, j'aurais pris un carton, tout simplement. Ça m'aurait évité pas mal de tracas et des frais, exactement. Alors je vous rassure, hein, tout de même, après une bonne heure et demie d'assemblage, elles ont pu apprécier quand même ce centre commercial Playmobil comme il se doit. Alors aujourd'hui, mes nièces ont 16 ans. Je leur avais récemment raconté cette histoire, cette anecdote, mais elles n'avaient pas souvenir de tous ces détails. Et l'une d'elles m'a même dit oh, désolé, tonton, j'espère que tu n'as pas été trop vexé à ce moment-là. Et je lui ai répondu eh ben, non, t'inquiète. Je l'étais un peu sur le moment, mais bon, c'était pas grave. Voilà, nous pouvons tous être un petit peu à côté de la plaque, parfois, et ne pas vraiment saisir ce qui se passe réellement. Alors, sans transition, je vous invite à lire le passage que nous allons partager ce matin. Alors, nous sommes toujours dans la série sur l'évangile de Marc, qui nous montre une révélation progressive du Christ, une révélation progressive de son ministère, de son message et de son salut. Donc aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 9, où je vous invite à lire Marc, chapitre 9, des versets 1 à 13, et je lirai dans la version Semeur. Et il ajouta, « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que « ressusciter » voulait dire. Ils lui demandaient alors, « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?»« Oui, leur dit-il. Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris ?» En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Nous sommes ici en présence d'un passage qui, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, a toujours été un peu mystérieux. Il y avait pas mal de choses qui étaient un peu incompréhensibles. Et souvent, c'est un passage qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors, de ce fait, je suis désolé par avance si je ne réponds pas à toutes les questions mystérieuses de ce texte. Je vais quand même essayer que nous puissions repartir avec des encouragements, mais peut-être aussi avec quelques questions non résolues. Malheureusement, je ne pourrai pas tout éclaircir aujourd'hui. Néanmoins, je voudrais ce matin nous amener à réfléchir sur le royaume de Dieu, sur sa révélation ici, bien évidente, et sur les encouragements que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Alors, dans notre passage, nous voyons ce que l'on appelle la transfiguration de Jésus. Alors, je vais vous donner la définition que nous donne Wikipédia concernant la transfiguration. Ce n'est pas une référence Wikipédia, mais ça permet quand même de voir ce que ça veut dire avec des mots compréhensibles. La transfiguration, c'est un épisode de la vie de Jésus-Christ dans lequel il change d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre. Au début de notre texte, Jésus prend avec lui 3 disciples. Donc il y a Pierre, il y a Jacques et Jean. Alors il les emmène en montagne pour aller prier. Et ce récit dans Marc trouve aussi ses parallèles dans Matthieu et dans Luc. Et nous pouvons par exemple voir le récit de l'évangile dans Luc qui relate le même épisode et qui dira que les disciples se sont endormis et qu'ils se sont réveillés en étant étonnés de voir 2 hommes parler avec Jésus. Ils étaient étonnés aussi de voir que Jésus avait le visage changé. Il rayonnait d'une blancheur éclatante. Et ces 2 hommes qui étaient avec Jésus étaient Élie et Moïse. Par la suite, Jésus a été enveloppé d'une nuée, et une voix, celle de Dieu, Dieu le Père, se fait entendre. Tout au long de cet épisode, les disciples ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Et ils ont très très peur. Dans l'évangile de Matthieu, qui relate aussi le même récit, il est dit que Jésus va rassurer ses disciples. Par la suite, ils redescendent de la montagne et discutent. Alors, quand je lisais ce passage avant, parfois on lit et on ne comprend pas tout. On passe, parce que voilà, c'est magnifique, c'est un tableau magnifique, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il est intéressant en fait de voir, quand on étudie un peu ce texte, que ce passage est truffé de parallèles à d'autres récits, et qu'il est aussi truffé de symboles, de symboliques. Et je vous propose maintenant de voir un peu quelques-uns de ces parallèles, quelques-uns de ces symboles. Alors je n'ai pas la prétention d'être exhaustif ici, mais j'ai relevé quelques petites choses très intéressantes qui vont nous aider aussi à la compréhension du texte dans sa globalité. Jésus y monte sur une montagne. Lorsqu'on parle de montagne ici, on pourrait faire en fait un parallèle avec ce que Moïse a vécu lorsque Dieu s'est révélé à lui au travers du buisson ardent, quand il est monté sur un mont, ou encore lorsque les tables de la loi lui ont été remises, donc les commandements. Et on peut voir que c'est intéressant parce que dans les deux cas, on y voit la présence de Dieu le Père, la présence de Dieu le Père dans le buisson ardent, la présence de Dieu le Père lorsqu'il donne les tables de la loi, les commandements à Moïse, la présence du Père lorsque Jésus monte sur cette montagne et qu'on entend la voix de Dieu. Il est aussi intéressant de voir que la prochaine fois, après cet épisode, où Dieu va monter sur une montagne, ça sera malheureusement sur le mont du Calvaire. Il ne va plus expérimenter la présence du Père, mais l'abandon et l'absence de Dieu. Et là, contrairement à la transfiguration, ça sera un épisode sombre, un épisode sans lumière, et un épisode où il expérimentera, comme je disais, non pas la présence, mais l'absence de Dieu. Deuxième chose, lorsque Jésus est transfiguré, il se trouve en présence d'Élie et de Moïse. C'est un peu étrange. Élie et Moïse ont déjà disparu depuis très très longtemps. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être là à ce moment-là ? Alors on ne le sait pas, comment est-ce que ça s'est fait ? On ne le saura peut-être jamais. Ça fait partie des mystères, mais toujours est-il qu'il y a là aussi une symbolique forte. Moïse est celui à qui Dieu a donné les tables de la loi. Il est aussi l'auteur de la Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de notre Bible actuelle. Et Élie, lui, était un prophète. Il est donc... On peut voir qu'il serait le représentant des prophètes de l'Ancien Testament, mais il était aussi celui qui devait annoncer le Messie, celui qui devait préparer sa venue. On peut voir donc en Élie d'une part et en Moïse de l'autre part, les représentants de la loi et des prophètes. Autrement dit, dans le contexte immédiat de notre texte, les représentants de la parole de Dieu, puisque l'Ancien Testament était déjà rédigé, et non pas le nouveau, et la loi et les prophètes dans la Bible symbolisent la parole de Dieu. Élie et Moïse donc représentaient les canaux utilisés par Dieu pour passer sa parole, et Jésus était l'accomplissement parfait de cette parole. Autre chose, lorsque Jésus est transfiguré, on peut y voir une similitude avec ce que Moïse a vécu lorsqu'il est descendu du mont Sinaï. Moïse avait le visage qui rayonnait, Jésus avait le visage brillant et les habits éclatants. Ils étaient l'un comme l'autre dans la présence du Seigneur, la présence de Dieu, le Père. Autre parallèle, lors du baptême de Jésus, alors on l'a vu dans le début de notre série sur Marc, au chapitre 1, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, on voit que Dieu va intervenir à ce moment-là. Il va parler directement et le Saint-Esprit va venir sous la forme d'une colombe. Et Dieu dira, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 9, nous voyons que Dieu le Père va aussi parler et une nuée va envelopper l'endroit. Dieu dira, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors certains théologiens, appuyés par la Bible, verront aussi dans cette nuée la représentation et la présence de l'Esprit Saint. On voit donc, en mettant en parallèle ces deux récits, la manifestation évidente de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. La manifestation lors du baptême de Christ va inaugurer son ministère et la manifestation lors de la transfiguration du Christ viendra vers la fin de son ministère sur le dernier chemin qui, au final, va le mener à la croix. Parallèle intéressant. Si nous en revenons aussi à la symbolique de Moïse et Élie, on peut remarquer que Moïse et Élie sont entrés dans la gloire de manière différente. Moïse est décédé, mais pas Élie. Élie a été enlevé au ciel alors qu'il était vivant. Nous voyons ici donc une manifestation évidente du royaume de Dieu. Si nous prenons un petit peu de recul, on peut voir un très beau tableau se dessiner. On voit le royaume de Dieu. On peut voir un aperçu de ce que nous serons et de ce que nous verrons lors du retour de Christ. Et alors, un des mystères aussi de ce passage du chapitre 9, à savoir le verset 1, prend un peu plus de sens. Je vous relis le verset 1 de ce passage. « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Pierre, Jacques et Jean ont effectivement vu le règne de Dieu venir avec puissance à ce moment-là, exact, cette nuit-là. Alors, à partir de tout ça, je vais m'essayer à une définition bien imparfaite, à partir de tout ce qu'on a vu concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là où Dieu règne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est aussi un royaume composé de tous ceux qui révèrent, Dieu, qu'ils soient de l'Ancienne Alliance, avant la venue du Christ, ou de la Nouvelle Alliance, après la venue du Christ. C'est un royaume qui a toujours été et qui sera pleinement dévoilé lors du retour de Christ. Alors on peut voir ce magnifique tableau, mais alors on peut se dire, c'est magnifique, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour moi? Pour moi aujourd'hui, qui suis à l'ère de l'intelligence artificielle et de la fibre optique, qu'est-ce que ça change pour moi? Alors je vous propose de revoir ce récit avec les yeux, cette fois, de ceux à qui on pourrait s'identifier le plus facilement, à savoir Pierre, Jacques et Jean, les disciples. En fait, Jésus va leur demander de l'accompagner en montagne pour aller prier. Et les récits de l'Évangile ne nous disent pas si les disciples ont effectivement prié ou si seul Jésus l'a fait. Toujours est-il que lorsqu'on revient sur le parallèle sur le récit parallèle relaté dans l'Évangile de Luc, Luc nous précise que lorsque Jésus priait, les disciples étaient profondément endormis. Et ce sont ces mêmes disciples, d'ailleurs, qui dormiront plus tard aussi dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus leur demande de veiller et de prier. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me reconnais tellement dans ce que vivent les disciples à ce moment-là. Alors, on n'est pas toujours physiquement en train de dormir hein, durant les moments de prière, mais on peut dormir spirituellement, parfois, dans nos vies. On peut par exemple faire les choses machinalement, parce qu'il faut le faire, et non pas par réelle volonté de servir, par réelle volonté de plaire au Seigneur. Les disciples se sont endormis. Ils se sont ensuite réveillés, alors peut-être par la lumière éblouissante de Jésus. Et là, ils semblent voir deux fantômes. Alors, ils ont peur, littéralement, qu'ils ne le seraient pas. Qui n'aurait pas peur. Le texte nous dit qu'ils étaient tous les trois remplis de peur. Et Pierre va dire un petit peu ce qui lui passe vraisemblablement par la tête. Et on reconnaît bien ici sa spontanéité. Il va dire, est-ce que nous devons monter des tentes pour Élie et pour Moïse? En fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend rien. Il est dépassé par les événements. Il ne sait pas comment réagir. Nous aussi, nous ne saisissons pas toujours ce que le Seigneur fait, si bien que nous réagissons parfois d'une manière totalement absurde. Mais heureusement, le Seigneur est patient. Il est patient envers nous. Alors par la suite, la nuit arrive, Dieu parle, et tout d'un coup, Élie et Moïse disparaissent, ils ne sont pas là. Alors ça devait être un moment terrible d'angoisse hein, pour les trois disciples. Et Matthieu va relater les faits comme ceci dans son évangile. En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». Alors ils se levèrent. Ils levèrent les yeux, pardon, et ne virent plus que Jésus seul. Alors, imaginez-vous un peu cette scène. Peut-être que certains d'entre nous se seraient déjà évanouis depuis longtemps en voyant ça. Peut-être certains se seraient déjà enfuis, seraient déjà partis en courant, ce qui serait mon cas, je pense. Face à l'incompréhension et à la peur suscitée par des événements qui, bien souvent, échappent à notre contrôle, rassurons-nous. Pourquoi ? Parce que Jésus nous rassure et nous assure de sa présence. Il nous fait relever la tête. Relevez-vous et n'ayez pas peur, comme il l'a dit aux trois. Ensuite, lorsque tous les quatre redescendent de la montagne, donc Jésus et les trois disciples. Jésus leur dit de ne pas parler de tout ça avant sa résurrection. Les disciples acquiescent, ils sont d'accord, mais ils ne savent pas de quelle résurrection il s'agit. Une fois de plus, ils ne comprennent pas trop. Ils vont ensuite poser la question de la venue d'Élie, qui doit arriver avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Et ce à quoi Jésus répond en disant que le nouvel Élie est déjà venu, il parlait là de Jean-Baptiste, et qu'il a été maltraité. Et que Jésus, lui aussi, sera aussi traité de la même manière. Il sera dans la souffrance et il sera méprisé. De l'incompréhension. Et une assurance que Jésus donne. L'incompréhension des disciples, l'assurance de Jésus. Alors je vous propose quelques mots d'encouragement que l'on peut tirer de ce texte. Le royaume de Dieu est réel, les amis. Il a été manifesté pleinement lors de cet épisode sur cette montagne. Et ce récit nous est parvenu en guise de témoignage. Ce royaume n'est pas encore aujourd'hui pleinement manifesté, mais soyons assurés qu'il est là. Le royaume de Dieu est là où Dieu règne, et là où il y a la communauté des saints, ceux qui ne sont plus, et ceux que nous voyons encore. Ceux qui nous ont précédés, qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde, mais qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, nous les reverrons, comme nous reverrons aussi Christ, que ce soit lors de son retour ou lors de notre départ de ce monde. Soyons-en assurés. Troisième chose, le temps vient où Christ rétablira tout selon la volonté de Dieu le Père. Toutes les injustices de ce monde, les infirmités, les maladies, les persécutions, les malheurs, les souffrances seront totalement effacées. Cette perspective devait être un réel encouragement pour Pierre, Jacques et Jean, les premiers protagonistes, parce qu'ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre des temps très très difficiles de persécution et de martyrs, et certains d'entre eux vont mourir dans des circonstances terribles. Donc c'est un encouragement pour eux de voir que le royaume des cieux est réel. Jésus est allé à la croix, mais n'y est pas resté. Il est ressuscité et aujourd'hui avec le Père. Aussi, notre foi ne repose pas sur du vide, mais sur une espérance, et ça repose aussi sur une ferme assurance de la résurrection. Jésus a affirmé ici qu'il allait ressusciter. Et il l'a fait. Autre chose, Christ, lui, a souffert. Les disciples aussi ont souffert. Nous souffrirons, sûrement aussi. Peut-être pas aussi intensément que les disciples, ni comme Jésus, mais nous pouvons souffrir de diverses manières. Les moqueries, la maladie, les infirmités, l'abandon, la solitude et autres. Mais Christ est vainqueur et il règne à jamais. Alors si nous avons mis notre confiance en lui, soyons assurés que nous sommes du bon côté. Enfin, nous ne comprenons pas tout et ne nous comprendrons jamais tout concernant le plan de Dieu. Nous serons peut-être parfois totalement à côté de la plaque. Nous allons sûrement jouer avec le gros carton plutôt qu'avec le beau jouet, puisque nous n'avons ni la patience ni l'intelligence parfois de cerner les plans de Dieu. Mais Dieu est compatissant, il use de pédagogie envers nous pour nous montrer, en son temps, ce que nous avons besoin de comprendre. Alors voilà, à la lecture de ce passage, j'espère que cette révélation du royaume de Dieu nous remplit d'encouragement dans notre vie de disciple. Alors ce n'était pas concerté, mais le verset que Henri a choisi clôt bien, je pense, ce message. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen.